Là, on est parti de Casque d'or, qui est un personnage connu grâce au film de Jacques Becker, interprété par Simone Signoret, qui se passe dans le milieu des Apaches parisiens. C'est en 1902 qu'il y a un fait divers qui commence à faire parler beaucoup dans les journaux. Ça fait une véritable petite guerre parisienne. Et c'est un journaliste qui a commencé à parler d'Apache. Alors, des Apaches à Paris, pourquoi des Apaches à Paris? En fait, c'est parce que c'était la grande mode des livres d'aventure, notamment avec Fenimore Cooper qui avait un grand succès avec la saga de Bas de Cuir, et notamment le deuxième tome de la saga, Le Dernier des Mohicans. Donc, comme les Apaches utilisaient surtout le couteau pour se défendre et pour se battre. Il y a eu comme ça une analogie entre les Indiens et c'est uniquement pour ça qu'on a appelé ces jeunes voyous des Apaches. Alors, qui étaient les Apaches? En fait, les Apaches sont des jeunes gens qui vivent en bande, c'est de la petite délinquance, comme il y aura ensuite les blousons noirs, comme on peut avoir des bandes aujourd'hui dans les quartiers, de la petite délinquance. Hein. Ça peut arriver qu'il y ait des homicides, mais ce sont vraiment des petits délinquants. Ils agissent tout à fait sans aucune retenue, en pleine rue, en plein jour, sans vraiment se cacher. Ils sont surtout dans les arrondissements excentrés, les anciennes communes qui ont été annexées, la Villette, Belleville, Charonne et le 13e arrondissement, ou alors carrément la première couronne, la banlieue de la première couronne. On les retrouve surtout là. Donc ce sont vraiment des jeunes voyous qu'on ne trouve qu'en ville, mais essentiellement à Paris, parce qu'il y a eu un phénomène similaire à Marseille, qu'on appelait les nervis. C'était très très proche, mais pourquoi on les appelait les nervis là-bas et les Apaches à Paris? Mais on les retrouve aussi sur les fortifications. Ce qu'on appelle les fortifs, c'est la dernière enceinte qui a été construite par Thiers entre 1840 et 1845 pour préserver Paris d'une éventuelle attaque, notamment de l'Angleterre. En fait, il y a eu énormément de gens qui étaient contre ces fortifications. Thiers les a fait construire malgré tout. Et en réalité, elles ont servi principalement, d'une part, à aider les Prussiens à faire le siège de Paris en 1870, et d'autre part à la répression contre les communards en 71. Voilà, donc après on a commencé à parler de les démolir, elles ont été désaffectées. Il faut imaginer un mur continu autour de Paris, c'est les HLM en briques rouges qui sont tout autour de Paris, c'est à cet endroit-là. Ces fortifications étaient en hauteur, il y avait un fossé. Pour défendre, il y a toujours un fossé. Et il y a un glacis, il y a une espèce de zone sur laquelle il était interdit de construire et qui, en fait, a été utilisée par des gens très démunis qui ont construit des baraques, des espèces de bidonvilles à cet endroit-là. Ce qui est devenu qu'on a appelé la zone, qui est en fait une zone militaire sur laquelle il était interdit de construire. Mais donc, c'est devenu la zone. Et c'est là qu'on retrouve beaucoup les Apaches. En tout cas, on va le voir, il y a deux sortes d'Apaches. Il y a des Apaches différents. Et les Apaches les plus démunis, on les retrouve beaucoup plus sur les fortifications. Alors, ces jeunes vivent en bande. La tierce, ça veut dire la bande, c'est leur famille, c'est ce qu'il y a de plus important pour eux. Ils se donnent des noms. Ils se donnent des noms en fonction du lieu géographique où ils sont, d'un détail vestimentaire, selon parfois le nom du chef. Donc vous avez la bande Amanda, vous avez la bande de Belleville, vous avez la bande des cravates vertes, vous avez la bande des casquettes rouges. Enfin, certains ont dit que les Apaches étaient des anarchistes. Et on a fait un amalgame entre Apaches et anarchistes. En fait, c'est faux parce que les Apaches n'étaient pas politisés. Ils avaient plutôt même tendance à reproduire la hiérarchie sociale au sein de la bande. Et donc, ils n'étaient pas du tout intéressés par tous les problèmes politiques et notamment anarchistes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu en 1907, je crois, un gros procès, c'est l'affaire Liabeuf. Je ne sais pas si vous avez.
1909,
ouais, merci. C'est un cordonnier qui a été injustement accusé de proxénétisme par deux policiers, donc il a fait de la prison. Et en sortant de prison, il a décidé qu'il allait se venger. Donc il a tué ces deux policiers, enfin bon, je vous passe les détails de l'histoire. Et comme il a tué, il s'en est pris à la police, les anarchistes ont pris fait et cause pour lui. Il y a eu un procès retentissant. Dans la presse anarchiste, on parlait de Liabeuf, tout le monde prenait parti pour lui et il est devenu un martyr anarchiste alors qu'il n'avait jamais été politisé. Donc je vous disais que la tierce était très importante, c'était leur famille. Ils étaient très très serrés les uns contre les autres. Ils se connaissaient souvent depuis très très longtemps parce que la bande venait d'une connaissance depuis l'enfance souvent. Soit ils habitaient dans le même quartier, la même rue, soit ils avaient été à l'école ensemble et donc ils se connaissaient depuis tout petit. Et trahir la bande, c'était quelque chose de très très grave. Lorsqu'il y avait trahison, soit on était évincé de la bande, soit on était marqué par la croix des vaches, qui était une croix que l'on faisait sur le visage avec un couteau, la plupart du temps, et un peu à la manière des délinquants au Moyen-Âge qui étaient marqués au front ou sur l'épaule. Ils étaient marqués à vie et du coup, ils ne pouvaient plus aller dans aucune bande parce qu'ils étaient reconnaissables, on savait qu'ils avaient trahi. Donc, je vous disais tout à l'heure, il y a deux sortes d'apaches. Vous avez l'apache qui est un jeune fils de bourgeois en rupture familiale, qui fait sa crise d'une certaine manière et qui va rentrer dans une bande le plus souvent composée de jeunes comme lui, de son milieu. Donc, on les reconnaît parce qu'ils s'habillent tous à peu près pareil. Il y a un uniforme qui est la casquette. Indispensable. Alors, quelle que soit la forme, hein, elle peut être plate, elle peut être gonflante, elle peut être à pont, il y a plusieurs types de casquettes. Bon, mais ça, la gaufre, c'est indispensable. La veste est en général cintrée. Il y a le pantalon à pattes d'éléphant. Et un petit foulard de couleur qu'on noue autour du cou. Alors, la différence entre ces apaches-là, qui sont déjà avec un certain revenu, on va dire, même s'ils sont en rupture de famille, ils ont les moyens de s'acheter des vêtements tout à fait corrects, modernes, neufs en tout cas. Alors, malgré tout, ça ne les empêche pas d'être proxénètes. Hein. Tous les apaches sont proxénètes, même s'ils ont quand même un petit revenu familial, ils sont proxénètes, ça c'est indispensable. Sinon, on n'est pas un apache. En revanche, les plus défavorisés, ceux qui viennent d'un milieu ouvrier dont les parents, la plupart du temps, sont au chômage, ils sont au chômage eux-mêmes, là, pour le coup, ce qu'ils ont sur eux, alors ils ont toujours la casquette, ils ont toujours le pantalon à pattes d'éléphant, ils ont la petite veste, ils ont le petit foulard. Ils l'ont acheté dans des fripes aux puces où c'est tombé du camion, hein, comme on dirait aujourd'hui. Et bon, voilà, donc c'est quand même assez défraîchi. Et la différence aussi entre les deux, c'est que les apaches un peu aisés ont des bottines à bout pointu avec des petits boutons dorés pour faire très joli. De temps en temps, ils ont des espadrilles pour le travail parce qu'on court plus vite avec des espadrilles. Les apaches plus défavorisés, eux, ont au mieux des espadrilles et souvent des charentaises. On ne fait pas trop de bruit et on court plus vite qu'avec des bottines ou des chaussures normales. Donc on se retrouve avec des gens qui vivent soit entre eux, donc dans les quartiers, toujours les quartiers excentrés, soit plutôt sur les fortifications. L'apache un peu, l'apache fils ouvrier, on le retrouve plus sur les fortifs, voire ils habitent parfois dans des cités zonières. Leurs parents y habitent là et donc ils sont plus ou moins, on les retrouve dans cet endroit-là. Alors, comment ils passent leur temps? Ils se prélassent dans l'herbe des fortifs, ils attendent leur marmite. Leur marmite, ben, c'est celle qui fait bouillir la marmite, hein. C'est la fille qui travaille pour eux. Donc ils attendent qu'elle rapporte le bénéfice de la journée ou de la soirée et eux, pendant ce temps-là, ils se la coupent douce. Ou alors ils jouent. Ils jouent beaucoup. Ils jouent aux cartes, aux dés. Le jeu est très très important. Et la plupart du temps, ils dépensent dans la journée ce que la pauvre fille a gagné le soir d'avant. Alors de quoi ils vivent? Puisqu'il leur faut bien un petit peu de sous quand même. Donc c'est cambriolage, c'est pickpocket. Alors les fils ouvriers peuvent être, quand ils sont trop trop démunis, journaliers, faire le manœuvre un jour ou deux, histoire de se renflouer. Et puis après, bon, la page dit toujours que le travail honnête, c'est pas pour eux. Donc, il y a tout ce qui est petite délinquance et puis le proxénétisme. Ça, c'est indispensable. Bon, ils ont tous des armes, ils sont très armés, mais donc le surin, le couteau. Ils utilisent le revolver, le rigolo, comme on dit, mais très peu parce que c'est trop bruyant. On préfère les armes de poing, des casse-têtes. Et les stylets, la plupart du temps, ils les font eux-mêmes. Ou alors, ils aiguisent des couteaux. Enfin, c'est souvent de la fabrication artisanale. Vous avez ce genre de choses. C'est un coup de poing américain qui a été transformé avec un stylet. Les coups de poing américains, on les trouve absolument partout. Hein. Dans n'importe quel bazar, on peut acheter un coup de poing américain. Et sinon, pour les plus pauvres, c'est des boyaux d'anguilles qui sont fourrés avec de la grenaille de plomb. Ça fait très très mal. Et pour ceux qui n'ont vraiment pas les moyens, il y a aussi quelque chose de très efficace et qui ne coûte rien, c'est l'os de mouton. Il y a un os qui a une petite branche. Et puis deux autres branches, et donc ils le tiennent comme ça, et ils s'en servent comme d'un coup de poing américain. Ils se battent entre eux aussi beaucoup, ils règlent leurs comptes énormément sur les fortifications. On a souvent assimilé les fortifications aux Apaches, et d'ailleurs les journaux vont faire des rubriques Paris Apache, le banditisme sur les fortifs, etc. Ils utilisent les fortifications, ou du moins le glacis, pour se battre entre eux, parce que c'est un endroit où la police ne va pas, il y a assez peu de gens qui passent, donc c'est très facile, quand deux bandes veulent s'affronter, de se retrouver là et puis de régler leurs comptes sans qu'on vienne les déranger. Alors les femmes sont très violentes. Elles aussi, dans les rubriques, vous trouvez énormément de faits divers de femmes. Là, ce sont trois filles qui ont attaqué un homme, donc qui l'ont bien esquinté. Il y avait l'égorgeuse de la Goutte d'Or, qui a eu son temps de célébrité. Elle manie le couteau aussi bien que leur souteneur. Hein. Malgré tout, elles sont quand même essentiellement des prostituées. Alors, comme les garçons, il y a deux sortes de prostituées. Il y a la rôdeuse des fortifs. D'abord, c'est toujours une fille seule. Elle est souvent assez âgée. Elle n'est plus toute fraîche. Elle travaille la nuit, là où on la voit le moins, donc sur les fortifs. Elles peuvent racoler plus ou moins. Elles sont toujours très, très, très maquillées pour essayer de camoufler l'outrage des hommes. Elles font ça dans le fossé ou comme ça. Et souvent, elles se font payer en nature, un litre de vin, un morceau de pain. Elles n'ont rien pour vivre. Donc, la plupart du temps, leurs clients sont des vieux messieurs, aussi vieux et pauvres qu'elles, ou les soldats. Les soldats des forts alentours qui n'ont pas d'argent et qui, donc, eux, pour le coup, payent souvent avec une boule de pain ou avec une bouteille. Alors pour elle, c'est très dangereux. En général, elle finit assassinée au fond d'un fossé. Hein. Alors pour celles qui ont un souteneur, donc un Apache souteneur, c'est très différent parce que d'abord, elles font pas ce qu'elles veulent. Hein. Elles sont obligées de ramener un minimum d'argent. Donc on leur demande de faire le boulot à la chaîne et elles prennent une raclée si c'est pas comme on veut. Ceci dit, elles sont pas seules, donc elles sont moins exposées que la rôdeuse des fortifs. Partout où elle est, son souteneur n'est pas loin. D'abord, il la surveille pour voir si elle n'est pas là en train de glander un petit peu dans un coin ou de fumer une clope en attendant que ça se passe. Mais si elle a des problèmes avec un client, il intervient. Et elles ont une spécialité, je dirais, c'est l'entolage. Au départ, ça se pratiquait à quatre, c'est-à-dire que vous aviez la prostituée, le client, une copine de la prostituée et le souteneur. Après, ça s'est un petit peu réduit, donc ça s'est fait avec la prostituée et soit une copine, soit ils faisaient ça à deux. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste à faire venir le miché, le client, dans sa tôle, d'où l'entolage, dans sa chambre. Le lit est placé de telle manière qu'on ne voit pas la porte d'entrée. Et donc, pendant qu'elle occupe le client, il y a la deuxième personne qui rentre et qui fait les poches du pantalon ou de la veste qui est accrochée derrière la porte. C'est pour ça que la position du lit est très importante. Par la suite, elles vont finir par le faire toutes seules, plus ou moins, c'est-à-dire qu'elles vont entraîner dans leur chambre le client et puis pendant qu'elle le fait monter au septième ciel, elle lui fait les poches et elle se sauve avant qu'il ait le temps de réagir. En disant qu'elle est pressée, qu'il faut qu'elle aille chercher un autre client. Donc quand il s'aperçoit que ses poches sont vides, elle est déjà loin. Puis s'il s'en aperçoit tout de suite et qu'il commence à la secouer, en moi mes affaires, elle crie et le souteneur qui est pas loin arrive en courant. Et du coup, alors les filles, elles ont plus de risques que les garçons. Pourquoi? Puisqu'elles sont prostituées. Qu'est-ce qui leur pend au nez? C'est la rafle et puis Saint-Lazare. Saint-Lago, comme disaient les filles, c'est l'hôpital des prostituées. C'est là qu'on emmène les filles. Elles y sont plus ou moins soignées si elles ont des maladies vénériennes. Elles ne sont pas dans des chambres, elles sont dans des dortoirs. Elles en ressortent avec des puces, avec... c'est une horreur, Saint-Lazare. C'est vraiment la hantise des filles. Donc ça, c'est les journaux qui font des rubriques concernant les apaches. Alors évidemment, à partir du moment où on commence à avoir peur, on se pose la question de la répression. Alors il y a des articles qui ont été faits en prenant l'Angleterre comme exemple. En France, quand on est un apache et qu'on est pris par la police, on est dans une maison tranquille, on est enfermé, on a une bibliothèque à sa disposition. Enfin bon, ça c'est ce que disent les journaux, évidemment, c'est pas ça dans la réalité. Alors qu'en Angleterre, les délinquants, on les fouette. Donc il y a un tas d'articles qui paraissent « Faut-il fouetter les apaches ?» D'autre part, on dresse des chiens à attaquer les apaches. Je pense qu'on les dresse en fonction du vêtement. Donc quelqu'un qui a un pantalon un peu mou et une casquette, il se fait attaquer par le chien. Et puis on prône surtout l'autodéfense. Il y a des articles aussi qui incitent à ce que la police tire à bout portant quand il y a une rixe. Et puis il y a l'autodéfense, bien évidemment. Donc on apprend aux gens à se servir d'une arme. Il y a des démonstrations dans les journaux où on leur explique. Alors, dans la réalité, les apaches, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ils sont, je vous ai dit tout à l'heure, ils sont très jeunes. Quand je dis très jeunes, ça veut dire qu'ils ont 17 ans, voire moins. J'ai trouvé dans les archives un jeune garçon de 14 ans qui avait deux filles qui travaillaient pour lui. Et les plus âgés, ils ont 22 ans. Pourquoi ? Parce qu'en général, ils sont appelés à l'armée. On fait l'armée à 21 ans et on fait 3 ans d'armée à l'époque. Donc quand on revient, on est un petit peu calmé, on rencontre une fille, on essaye de se trouver du travail, on fonde une famille... On change les voitures. En revanche, si vous êtes un bon et que vous êtes repéré par le milieu, vous pouvez être recruté par le grand banditisme. Sinon, vous avez le bagne. Le bagne est un truc très important, les bataillons d'Afrique, c'est-à-dire que parfois les juges donnent la possibilité à un apache, un jeune qui est récidiviste, soit on vous envoie en bagne, soit vous partez au bataillon d'Afrique s'ils ont l'âge de partir à l'armée. Nombreux sont ceux qui préfèrent les bataillons d'Afrique parce qu'on en revient. Alors que le bagne, on n'en revient pas vraiment. Parce que quand on est récidiviste, on est envoyé au bagne. Au bagne, il y a 3 sortes de bagnards. Vous avez les déportés, qui sont des prisonniers politiques, comme Dreyfus, comme ces gens-là ont pu être envoyés au bagne. Les transportés, ce sont ceux qui sont condamnés aux travaux forcés, et donc qui en général ne reviennent pas. Et vous avez les récidivistes qui sont envoyés au bagne et qui sont condamnés au doublage. C'est-à-dire que s'ils sont condamnés jusqu'à 8 ans de bagne, ils doivent refaire 8 ans après. Libre, mais on doit rester sur place. Au-delà de 8 ans, ils sont condamnés à rester définitivement. Donc si on fait le doublage, on peut toujours espérer repartir, mais dans la réalité, on ne repart jamais. Donc c'est la misère totale parce que autant quand vous êtes au bagne, vous êtes mal logé, mal nourri, maltraité, mais vous êtes logé et nourri. Une fois qu'ils sont dehors, ils sont plus ni logés ni nourris. Et là, c'est vraiment la catastrophe. Bon, alors pourquoi on fait ça ? D'abord pour mettre en dehors de la France tout ce qui est voyous, délinquants ou assassins. Parmi les bagnards, il y a plus que des délinquants. Mais c'est aussi une manière de peupler la Guyane. Il y a des bagnes de femmes aussi. Donc quand elles sortent et qu'elles font le doublage, parfois on se met à deux, c'est plus facile, ou en tout cas moins difficile. Il y en a qui se marient avec des femmes du cru. Donc il y en a quelques-uns qui arrivent à ouvrir un petit commerce, à se débrouiller et à rester. Mais en tout cas, ils ne reviennent jamais en métropole, ça c'est clair. Alors pour les plus chanceux, ceux qui ont échappé au bagne, en général, ils finissent clochard. S'ils n'ont pas réussi à se recaser, à trouver un métier et à redevenir quelqu'un d'honnête, à un moment donné, ils sont plus capables de courir et d'aller faire de la cambriole. Soit ils sont tués dans une rixe, soit ils finissent sur l'échafaud s'ils ont été recrutés par le grand banditisme. Et c'est la fin qui est la plus certaine. Donc à partir de là, qu'est-ce que d'or ? Donc, Casque d'or au cinéma, évidemment, c'est Simone Signoret, c'est la magnifique Simone Signoret dans ce film, elle est vraiment très belle. Même si personnellement, je ne trouve pas que ce soit le film où elle est la plus jolie. Moi, je préfère Dédé d'Anvers. Voilà les protagonistes au cinéma. Donc, vous avez Claude Dauphin qui joue le rôle de Leca. Dans le film, Leca est très marginal. Il n'a pas un rôle prépondérant comme il a dans la réalité. et Serge Reggiani qui joue Manda. C'est vrai que ça se passe dans le milieu des Apaches, dans le milieu des guinguettes. C'est très joli, c'est un très beau film. Alors, dans le film, elle a un proxénète qui s'appelle Polo Bellegueule, je crois, quelque chose comme ça, qui est très très jaloux, qui va lui faire une scène lorsqu'elle va danser avec Manda, qui est un ouvrier ébéniste, qui n'est pas du tout un voyou, lui, dans le film. Et donc, c'est l'histoire d'un amour impossible entre cet ouvrier. Il y en a un qui va se faire assassiner. Manda va finir guillotiné. Alors, ce n'est pas la vraie histoire. Hein, voilà. Le vrai visage de Casque d'Or est Joseph Pleigneur dit Manda et Dominique Leca. Alors, qui est Casque d'Or? D'abord, elle ne s'appelle pas Casque d'Or, hein, elle s'appelle Amélie Elie. Elle est née à Orléans en 1874. Dans une famille d'ouvriers qui décide de partir, de monter à Paris. Elle a 2 ans quand ils arrivent à Paris. Elle dit qu'elle a eu une enfance très pauvre, mais pas du tout malheureuse, très heureuse. Ses parents sont des ouvriers, mais voilà, ils s'occupent d'elle, ils l'aiment. Bon. Et puis à 13 ans, elle rencontre le grand amour dans un bal. On l'appelle le petit matelot. C'est un vieux, déjà il a 15 ans, donc il s'aime, il décide de se mettre en ménage. Donc elle fait une fugue. Ils ne comprennent pas pourquoi, il n'y a aucun hôtel qui veut les prendre, on leur demande leur âge, quand ils disent j'ai 13 ans, j'ai 15 ans, on les met dehors. Puis finalement, il y a une tenancière un peu moins regardante que les autres, au fond d'une impasse qui leur loue une chambre, et ils vont s'aimer pendant plus d'un an. Alors, ce n'est pas si simple que ça, parce que le père Élie, il va envoyer la police, hein, elle a fait une fugue, elle a 13 ans, donc il la fait rechercher. Forcément, on la retrouve, elle est mise en maison de correction pendant 2 mois, Quand elle ressort de la maison de correction, elle retourne au fin fond de son appart se retrouver son petit matelot. Lui travaille, hein, il est serrurier. Elle est fleuriste, elle est apprentie fleuriste à l'époque. Donc, ils travaillent tous les deux. Donc, quand elle sort de la maison de correction, elle va le retrouver. Donc, son père envoie à nouveau la police. Elle fait à nouveau 4 mois de maison de correction. Et puis, à la 3e fugue, son père est tombé. À l'époque, on ne faisait pas trop d'histoires. Donc, ils vont rester un peu plus d'un an ensemble. Un beau jour, elle va en avoir assez. Alors déjà, elle raconte qu'il a fallu presque 2 semaines pour qu'ils arrivent à consommer leur mariage, parce qu'ils étaient aussi inexpérimentés l'un que l'autre, forcément, 13 ans et 15 ans. Et donc, ça a duré 14 mois exactement, leur histoire. Et donc, elle trouve que ça commence à devenir un petit peu le train-train. Elle est quand même, elle a 14 ans, elle a envie d'autre chose. Et elle s'en va. Elle va errer pendant quelques heures, pas longtemps, et puis elle va rencontrer une fille qu'elle connaît de vue, comme ça, qu'on appelle la belle Hélène, qui est une prostituée qui travaille dans le coin et qu'elle a croisée régulièrement. Donc la belle Hélène lui propose de venir chez elle. Elle dit « je vais t'héberger, tu vas pas rester dans la rue bon. ». Donc elle va chez la belle Hélène, qui en fait très vite lui fait des avances. Donc elle va connaître l'amour avec la belle Hélène. Et puis aussi, rapidement, elle va lui dire « Ma petite, faut gagner ta croûte quand même. » Et c'est elle qui va la mettre sur le trottoir. En fait, elle est mise sur le trottoir par une femme qui va lui expliquer comment il procède. Et c'est donc la belle Hélène qui va la mettre sur le trottoir. Au bout de quelques temps, un soir qu'elles étaient comme ça, sorties toutes les deux, manger au restaurant, dans un petit bar, elle va rencontrer un type qui s'appelle Bouchon, qui sort de prison parce qu'il avait tué son ex. Elle le rencontre, elle tombe amoureuse de lui. Ils se mettent en ménage. Ça allait vite. Hein. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure par rapport aux femmes, c'est qu'elles ont un rôle important dans les bandes, hein, mais pas seulement pour des raisons vénales. C'est-à-dire que quand ils se mettent en couple, l'amour a aussi son importance. Et une femme est relativement libre. Elle n'est pas libre puisqu'il faut qu'elle travaille et qu'elle donne l'argent et tout ça. Et qu'en plus, elle se fait battre et que c'est normal. Un homme qui bat pas sa femme, c'est pas un homme. Enfin, aussi bien par rapport à ses copains que par rapport aux autres filles. Bon. Et donc, elles sont quand même relativement libres dans le sens où si elles sont pas contentes de cet homme-là, s'il est pas assez représentatif, s'il est pas assez costaud, elles peuvent le quitter et en prendre un autre. Alors après, il peut y avoir des histoires comme avec Manda et Leca, où il y en a un qui va essayer de la récupérer ou je ne sais pas quoi. Mais en général, c'est les hommes entre eux qui s'expliquent, mais la fille, elle n'est pas trop inquiétée. Là, elle rencontre ce Bouchon avec qui elle se met en ménage. Lui, très vite, il va lui imposer des moyennes. Donc il faut qu'elle rapporte un minimum d'argent, et si elle ne fait pas la moyenne, il lui donne une trempe. Et puis au bout d'un moment, il va passer à plus fort, ils vont se mettre à trois et pour la passer à tabac. Donc elle va se sauver, mais au bout de 3 jours, quand ces bleus vont commencer à s'estomper, elle va retourner pour chercher quelques affaires, et puis quand elle arrive, il est là, torse nu, en train de faire sa toilette, et oh, elle avait oublié qu'il était si beau, oh là là, là. Alors donc elle lui retombe dans les bras, et elle recommence, et rebelote. Là, il prend pas de copain pour la passer à tabac, il la poignarde à coups de ciseaux. Mais elle ne meurt pas. Elle réussit à se sauver. Et c'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer Manda, Joseph Plaigneur, qui Manda, avec qui elle va se mettre. Donc là, elle va travailler, elle est amoureuse, elle le couvre de bijoux, elle lui offre des vêtements neufs avec des manteaux de fourrure. Elle est parfaite. Et puis, l'amour étant un petit peu routinier, encore une fois, alors, c'est pas clair. Je ne sais pas si c'est elle qui a proposé à Manda ou si c'est Manda qui lui a proposé. En tout cas, elle va entrer dans une maison de tolérance. Elle dit que c'est elle qui avait envie, mais enfin bon, tout ça, c'est pas très clair. Elle rentre dans une maison de tolérance rue des Martyrs, vers l'église Notre-Dame de Lorette, où il y avait énormément de maisons de ce type. C'était des maisons un peu, on dirait, familiales. C'est pas le luxe du Chabanais, c'est pas le côté sordide des maisons d'abattage. Là, c'est des pères de famille qui viennent là, rentrent le soir, ils passent, voilà. Elle y est bien traitée, l'hygiène est complètement respectée, elles doivent passer des contrôles médicaux, elles ne sont pas battues. Et puis surtout, quand l'hiver arrive, être sur le trottoir, faire le ruban, comme on dit, l'hiver, c'est pas drôle. Quand on est dans une maison, on a chaud, on est à l'abri, et puis on risque pas de se faire rafler pour aller à Saint-Lazare. Donc elle reste quelque temps dans cette maison, elle a une journée par semaine de repos, où elle rentre voir Manda. Et là, très vite, elle s'aperçoit que pendant qu'elle bosse dans la maison de la rue des Martyrs, lui fait le beau avec d'autres femmes, forcément. Donc elle lui dit, attention, si c'est ça, moi je sors, je reviens. Bon. Puis un jour, elle le prend sur le fer avec une autre femme. Donc elle décide de quitter la maison et elle revient sur les trottoirs de Belleville. Et un jour où ils se disputent à nouveau, vraiment très fort, encore à cause d'une femme, elle est très très fâchée, et elle rencontre Leca. Dominique Leca, qui est un Corse, et là, il va la subjuguer, parce qu'il revient des Baddaf. Il est tatoué de partout, il lui raconte les guerres, les assassinats, tous les trucs qu'il a pu faire, elle boit ses paroles, il lui montre ses tatouages, elle dit qu'à lui seul c'est une véritable géographie, il en a partout, enfin, donc elle lui tombe dans les bras. Sauf que bien sûr, Manda n'est pas de cet avis, c'est quand même quelqu'un qui lui rapporte beaucoup d'argent. Sa bande attaque la bande de Leca et Leca reçoit un coup de poignard à la tête. Il est transporté à l'hôpital Tenon. Quand il ressort, quelques jours après, il est dans un fiacre, il a ses hommes autour qui sont sur le marchepied, qui surveillent, et ils sont quand même attaqués. Et là, il est à nouveau grièvement blessé et on doit le retransporter à Tenon. C'est là que va naître la légende Casque d'or. Il y a une de ses anciennes à Leca qui vient le voir et qui est très très brune. Amélie vient le voir quelques heures après et il y a une infirmière qui dit « Qui est-ce qui vous a fait le plus plaisir des visites, le casque d'ébène ou le casque d'or ?» Comme il y avait des journalistes qui commençaient à être là parce que cette histoire commençait à faire parler, casque d'or, voilà, on a attrapé ça au vol, le premier journaliste qui a mis ça dans son journal, après ça a été, voilà, c'est devenu casque d'or. Dans la réalité, naturellement, ils se sont bagarrés. C'est ça aussi qui a fait que ce fait divers a eu un impact et qu'on en a beaucoup parlé, c'est que ça va durer pendant plus de 3 mois. Alors, une histoire comme la leur, c'est-à-dire une fille qui part avec un autre proxénète et le premier qui veut la récupérer et les deux qui se bagarrent, en général, on règle ça avec un coup de couteau dans le dos. Et on n'en parle plus. Là, pendant plus de 3 mois, les deux bandes vont se bagarrer et vont se rater. C'est-à-dire qu'ils vont y aller à coups de revolver, ils vont faire tomber les vitrines des magasins. Le matin, on retrouve des mares de sang sur le trottoir. Un matin, un balayeur croit ramasser un gant. En fait, c'est une main qui a été tranchée. Donc, tout le quartier de Charonne et de Belleville est complètement terrorisé. On ne parle que de ça. Et c'est la raison pour laquelle ça va devenir un fait divers qui va faire la une des journaux pendant 3 mois. Forcément, au bout d'un moment, ils sont tous les deux arrêtés. Ils vont être condamnés au bagne. Quant à elle, elle se retrouve toute seule. Elle a plus envie de refaire le ruban, et bien évidemment. Elle est contactée par des photographes et fait une série de cartes postales où elle est quand même joliment arrangée, comme on peut la voir là. Bon, là, elle est bien maquillée par rapport à ce que vous voyez là, évidemment. Hein, elle est bien coiffée, bien maquillée. Elle fait de jolies photos de nu, c'est assez artistique. Bon, seulement, ça ne va pas durer longtemps, ça ne va pas lui rapporter suffisamment. Elle va devenir artiste. Elle va réussir à se faire embaucher comme chanteuse dans un théâtre de la Porte Saint-Martin. Et là, alors là, ça va être tous les soirs, sitôt qu'elle apparaît, il y a les partisans de la bande de la Courtille qui se bagarrent avec les partisans de la rue de Belleville. Enfin, le préfet est obligé de faire arrêter parce que c'est un carnage tous les soirs. Bon, c'est pas possible. Et elle a une idée, elle se met dompteuse de lion. Comme avait été la Goulue en son temps aussi, elle avait été dompteuse de lion. Elle s'était mariée avec un homme qui travaillait dans le cirque. Elle va faire ça aussi pendant un certain temps. Elle se débrouille pas mal. Sauf qu'un jour, il y a un type de la bande à Amanda qui la retrouve. Et au moment où elle fait son salut, lui, il la poignarde et elle s'écroule. Voilà. Elle est obligée d'arrêter, mais elle ne meurt pas. Invincible. Et elle va finir par rencontrer un homme, un ouvrier honnête, de 15 ans son cadet, et avec qui elle va se marier à la mairie du 20e. Il est commerçant, il fait les marchés, il vend des étoffes et de la bonneterie sur les marchés. Donc elle va avec lui, elle va finir sa vie sur les marchés de Belleville, Charonne, à Montreuil, tout le nord-est parisien, ils font les marchés. Et après, la vie qu'elle a eue, elle va finir, j'allais dire, bêtement dans son lit. Elle meurt d'une tuberculose, elle a à peine 60 ans, en 1933. Voilà, véritable histoire de Casque d'Or. Et donc ça, c'est Manda et le cas au bagne. Non, ils ne sont pas partis ensemble. Ils se sont cherchés et ils ne se sont pas trouvés. Et Manda a fait son temps jusqu'au bout. Il a participé à soigner, etc. Bon, il s'était bien rangé des voitures, lui aussi. Après, quand il a dû doubler son temps, il s'était installé. Il a rencontré Albert Londres, qui a raconté un petit peu sa rencontre avec lui. Quant à le cas a essayé de s'évader. Et il s'est fait assassiner par des chercheurs d'or. Il y a beaucoup de chercheurs d'or en Guyane. Il y en avait déjà beaucoup à l'époque. Et ils l'ont vu qui rôdait autour de leur placé. Et ils ont cru qu'ils voulaient venir leur piquer quelque chose. Ou voilà. Et ils l'ont abattu.
Le bagne, à l'époque, c'était uniquement en Guyane. Il y en avait d'autres.
Non, il y avait en Nouvelle-Calédonie. Mais la Nouvelle-Calédonie, c'était essentiellement des politiques. Les communards ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie.
Mais alors, qui a raconté les histoires, enfin les détails dont on parlait ?
Alors, quand il y a eu le procès de Manda, elle était citée comme témoin, on dirait aujourd'hui, et pour être sûre qu'elle ne se sauve pas, elle a été mise en prison. Et c'est un journaliste qui est venu la voir et qui lui a demandé d'écrire ses mémoires. Il lui a dit « Vous devriez écrire vos mémoires ». Elle a dit « Mais je ne sais pas écrire ». Donc il lui a dit « Vous me racontez et moi, je vais retranscrire ». Donc moi, lorsque j'ai fait ma thèse sur les fortifs et que j'ai travaillé sur les Apaches, j'ai retrouvé ce journal qui s'appelait Fin de siècle et qui a publié en feuilleton les mémoires de Casque d'Or. Alors, ceci dit, il faut faire très attention parce que, d'abord, c'est ce qu'elle veut bien dire. C'est recueilli par un journaliste qui, après, le réécrit. Et ensuite, quand elle parle d'elle, elle raconte qu'elle était prostituée, certes. Elle ne dit pas non, mais elle était toujours soumise à ses protecteurs, elle n'était pas du tout violente, elle n'a jamais fait de choses répréhensibles, autre que de faire son travail comme il faut. Alors que dans les journaux, on voit bien à quel point les femmes sont violentes, et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai écrit cette biographie, qui est un roman en fait, hein, c'est une biographie romancée, je me suis posé la question, est-ce que je lui fais faire ce qu'elle ne raconte pas, mais qu'elle a forcément fait, d'autant que j'ai vu son dossier à la police, aux archives de police. Or, elle a fait plusieurs fois de la prison pour vol à l'étalage, pour entolage, pour violence. Enfin, elle a fait exactement tout ce que les autres ont fait. Donc, je me suis dit, est-ce que je reste le plus près de ce qu'elle raconte ? Est-ce que je lui fais faire ce qu'elle a fait en réalité ? Et j'ai choisi d'inventer un personnage. J'ai inventé une femme à partir d'un fait divers que j'ai trouvé dans les journaux, et je l'ai fait rentrer dans la bande, et c'est par elle je raconte la violence des femmes, en fait.
Manda, alors, finalement.
Manda, il est mort de mort naturelle au bagne.
À Cayenne, alors.
Oui,
Qu'il a doublé sa peine.
Oui, oui, oui.
Et là, ce que je ne comprends pas, vous dites qu'ils ne se sont jamais rencontrés.
Non.
Donc, ils étaient dans quel bagne, alors? Ils n'ont pas dans la ville de Cayenne,
non.
Jamais.
Non, il y avait plusieurs sites.
Moi, j'ai habité la Guyane, donc je me suis beaucoup intéressée à ça. Il y avait le bagne du sud, qu'on connaît très mal, Saint-Georges-de-l'Oyapock. Il y avait le Kourou pour les politiques, oui, etc. Et puis, il y avait Saint-Laurent-du-Maroni.
Alors, il y en a un qui était à Saint-Laurent.
Selon justement.
Alors, Manda était à Saint-Laurent-du-Maroni et je pense que le cas, étant donné qu'il s'est retrouvé avec des chercheurs d'or, il devait être.
C'était dans le sud alors.
Je pense.
Parce que c'est ce qu'on appelait la guillotine sèche. Parce qu'il
oui, la guillotine. Tout, oui.
À ça. Mais là, comme il est vêtu, moi, c'est ce qui me frappait. On dirait ce qu'ils appelaient un garçon de famille. Vous voyez,
alors non, il n'a pas été garçon de famille. Alors là, je pense qu'il est vêtu comme un infirmier. En tout cas, il n'a jamais été garçon de famille.
Ça a duré jusqu'à quand, les appâts? Jusqu'à la guerre de 14?
Vraiment, à partir de la guerre de 14, ça commence à diminuer. Ça va durer jusque dans les années 20. Après, ce qu'on appelle le milieu qui va prendre le dessus. Ils vont restructurer la prostitution, ça va être réorganisé autrement. Et les apaches vont disparaître, en tout cas le nom. Après, on va retrouver les jeunes délinquants après-guerre avec les blousons noirs. Le fait qu'on les appelait des apaches, ça a monté en épingle un phénomène qui existait bien évidemment
bien sûr,
avant.
Mais c'est-à-dire qu'après, ils ont contrôlé tout ce qu'ils appelaient les zones, aussi bien au nord de Paris qu'au sud, parce qu'il y avait la même chose dans le sud, du côté de Bagneux et tout ça.
Ah, pareil, oui, pareil, oui. Oui, c'est pour ça, j'ai dit c'était.
Avec les chiffonniers, les
c'était la première couronne. Sur la zone, il y a des endroits où. Moi, j'en ai fait à Pantin des recensements de. De baraques. Ça dépend des endroits. Il y a des endroits où il y a, par exemple, vers Gentilly, il y avait une colonie importante d'Italiens, il y avait une colonie importante d'Arméniens dans le sud, vers la porte d'Italie. J'ai rencontré quelqu'un qui habite au Kremlin-Bicêtre, qui est né sur la zone, à la porte d'Italie. Il y avait des endroits où c'était infâme. Il y avait les cités de Chiffonny, c'est une horreur. Il y avait des cités qui étaient aussi des repères pour les interdits de séjour, qui venaient s'installer là, puisque la police ne rentrait pas, donc c'était très facile. Il y avait des boyaux, comme des cours qui tout correspondait, un peu comme la cour des miracles. Hein. Mais il y avait par contre des endroits où c'était construit avec des matériaux de récupération. On n'avait pas le droit de construire, mais il y avait des choses qui étaient relativement coquettes.
À la porte d'Amières, oui, il y a eu un immeuble construit dans la zone, qui d'ailleurs s'appelait le château, qui faisait 4 étages. Et mon père y a habité.
Mais il y en a eu un à Neuilly aussi.
Et mais vraiment un immeuble oui, oui, incroyable. Comme moi, je ne l'ai pas vu parce qu'il avait été démoli. Mais mon père m'avait dessiné le bâtiment. C'était
oui,
énorme.
Oui, oui.
Pas
il y en a eu un à Neuilly aussi.
Sans aucun permis de construire.
C'était un milieu qui n'était pas homogène. Il y a un roman de Brasillac. Enfin, je suis désolée de citer Brasillac. Mais là, c'est un roman assez sympathique qui s'appelle Le marchand d'oiseaux. Et ça se passe sur la zone qui est tout autour de la cité universitaire. Enfin,
ah bah à la place voilà, de la cité universitaire.
Oui, voilà, elle a été érigée au milieu de la zone. Donc ça se passe pile là. Et il montre, il a fait apparemment une enquête sérieuse, ici, il est baladé, oui, que c'est hiérarchisé. Quoi. Il y a toutes sortes de situations sociales.
C'est pour ça
que
c'est.
Il y a des gens qui voilà, travaillent, qui ont des revenus
tout à
presque
fait,
corrects,
oui, oui, oui,
qui
oui,
sont rangés dans oui, jolis petits pavillons. Et qui oui, sont souvent des ruraux, en fait, qui ont émigré à Paris.
Dans
du coup,
oui, oui,
ils ont des lapins, des poules, oui, tout ce qu'il faut. Et puis des gens très misérables.
Absolument. Voilà. C'est presque par quartier.
Il y a des Roms aussi.
Ah oui.
À Montreuil, sur les.
Il y en avait aussi vers la porte de Paris, à Saint-Denis.
Il y a des liens avec la bande à Bonneau.
Alors, la bande à Bonneau, ce sont des anarchistes.
Qu'est-ce que c'est qu'un garçon de famille? Ce sont des bagnards qui étaient employés dans les familles, soit de gardiens de prison, soit chez le gouverneur, etc. Il y a d'ailleurs des choses très drôles, des photos extrêmement drôles, où on voit la maîtresse de maison lancer une œillade de garçon de famille. Enfin, mais c'était extrêmement privilégié quand
ah
même,
oui,
par rapport aux autres.
Il y a un très beau roman de Paul Constant qui s'appelle La fille du gouvernator, qui parle de ça, puisqu'elle a été c'est la fille ou la petite fille du dernier directeur de bagne. Enfin bon, elle...
Mais garçon de famille, on pouvait l'être avant d'être libéré, donc avant de faire son doublage pendant la peine.
Mais il y en avait aussi d'autres privilégiés, parce que bon nombre ne savait ni lire ni écrire, mais celui qui savait lire et écrire, il y a eu beaucoup de criminels, il y a eu des médecins, il y a eu des pharmaciens, même des notaires. Ceux-là étaient secrétaires, enfin ils avaient des
emplois. Bien sûr, oui, oui, oui.
À Aubervilliers, les quatre chemins entre Aubervilliers et Pantin, oui. Qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit-là?
C'était quoi? Bah déjà, on est tout près de la zone.
Oui, on est tout,
ça, on ça est fait, tout ouais, près de la ça. Zone. De ce côté-là, ce n'était pas construit, justement, ouais. À cause des abattoirs. Et donc, entre la Villette et la porte de la Chapelle, le bétail arrivait par train par la gare de la Chapelle, et le bétail passait par la zone pour aller jusqu'à la Villette. Donc là, c'était plutôt un lieu de promenade. Aubervilliers, Pantin, Quatre Chemins, ça fait partie de toutes ces villes de la première couronne, comme Bagneux, comme Ivry, comme toutes ces villes-là, où il y avait effectivement des apaches qui étaient là. D'ailleurs, il y a une bande célèbre qui s'appelait la bande des Quatre Chemins d'Aubervilliers.
Ouais. Mais récemment, à la bibliothèque historique de la ville de Paris, il y a une exposition sur les premiers temps du cinéma. Il y a plein de petits films muets qui mettent en scène des apaches. Des apaches qui font des coups. Enfin, bon, c'est des acteurs. Ils sont habillés exactement comme sur ça, les images. Ils se cachent à l'angle d'une palissade. Ils affirment les gars. Et c'était bien, cette expo.
Alors, on nous parle de la violence aujourd'hui, à votre avis, à l'époque. C'était pire, c'était mieux, c'était différent.
C'est compliqué, parce que la petite délinquance a toujours existé, elle existe toujours. Sauf que depuis l'introduction de la drogue, l'organisation a complètement changé. Et la violence aussi, la violence a évolué dans le mauvais sens. C'est beaucoup plus violent. C'est une autre organisation. C'est de la même façon que le milieu a pris la place des proxénètes, ça a pris la place de...
Est-ce qu'on n'était pas macro comme on est dealer aujourd'hui? Je me suis posé la question.
On pouvait être macro tout seul dans son coin.
Voilà.
Alors qu'on ne peut pas être dealer tout seul dans son coin.
Non, ça c'est vrai.
Il y a toute une organisation derrière.
Mais je veux dire que l'activité délictueuse principale aujourd'hui, c'est le deal. Il y a différents degrés. Et à l'époque, c'était... mettre sa copine sur le trottoir. Parce qu'en fait, c'était pas des grands macros et tout.
Non, c'était leur copine, leur sœur, c'était... Donc, mais c'est vrai que l'organisation de la petite délinquance, les petites bandes d'apaches, c'est quand même... C'est vrai que... dans les cités, vous avez toujours des petites bandes de mômes qui ont été à l'école ensemble, qui sont nés dans la cité, qui se connaissent, quand Kikine, Mais à partir du moment où ils mettent le doigt, tout petit, on les engage, on leur donne 20 euros pour faire le guet, qu'après ils commencent à dealer, c'est plus la même organisation. On rentre dans quelque chose de beaucoup plus large et plus violent et plus complexe. Moi, j'ai fait une enquête sur les archives de police, sur une ville, en quantifiant. Il y a énormément de vols, de tentatives de vol, d'effractions. Il y a un homicide et une tentative d'homicide sur l'ensemble. C'est de la petite délinquance. Là encore, les médias de l'époque ont fait leur boulot, comme aujourd'hui. J'ai utilisé le répertoire de police de 1911 de Levallois et Ivry-sur-Seine. Et donc, sur un total de 193 délits, il y avait 114 affaires de vol. Donc 60% de l'ensemble, sans violence. Avec quelqu'un qui vient porter plainte en disant « ma porte était ouverte, on m'a volé ma chemise et mon pantalon ». C'est de cet ordre-là. Il y a les coups et blessures, 16 affaires. Les escroqueries, il y en a 15. Et il y a 9 arrestations pour cause de prostitution. Il y a donc un cas d'homicide volontaire. Et 4 cas de tentative d'homicide volontaire.
Les anards ont souvent été dans les réseaux de fausses monnaies, mais il y avait aussi des délinquants ordinaires. Est-ce que les apaches...
C'était trop compliqué pour eux. Non, ce sont vraiment des jeunes qui savent ni lire ni écrire pour la plupart. Non, c'est trop compliqué pour eux. Les anarchistes sont beaucoup pratiqués,
moi,
pas les apaches.
J'ai souvent dépouillé sur les réseaux de faux monnayeurs. Et il y avait aussi des délinquants qui n'étaient pas anards. Du coup, il y avait entre les deux milieux un peu de porosité.
Oui,
mais je m'étais demandé si les apaches...
Je ne peux pas affirmer qu'il n'y en a jamais eu. Mais non, les gamins de 15 ans, ils ne faisaient pas de fausse monnaie.
S'il y a des héritiers des apaches, ça serait les blousons noirs.
Voilà, ouais. C'était des jeunes. Ils n'étaient pas proxénètes, non, les blousons noirs, mais justement. Disons que c'était des bandes, ouais, ils voilà, faisaient peur, ils avaient leurs mobilettes, ils embêtaient tout le monde. Oh bah, ils se bagarraient entre eux, oui, là aussi c'est pareil, ils se bagarraient beaucoup entre eux, à coups de chaînes de vélo, mais c'était entre eux.
Mais c'était pas des gens quoi. Les azules aussi.
Oui, les azules.
C'est plus intellectuel, mais enfin, c'était une résistance intellectuelle. On allait, pardon, il y avait les danses, il y avait la musique. Mais je ne crois pas qu'il y avait vraiment de délinquance. Ça a beaucoup existé pendant la guerre, donc il y avait aussi une forme de résistance de jeunes comme ça qui disaient « on n'a pas le droit, il y a le couvre-feu, on va y aller bon. ». Il y a une compensation par rapport aux restrictions, par rapport... Ce n'était pas le propre des azous d'être délinquants.
Mais dans un article de Michel Perrault sur les Apaches, je ne sais plus lequel, peut-être celui où elle parle justement de cette proposition de fouet, « faut-il fouetter les Apaches ?» Elle termine en parlant de la guillotine à veuve et elle dit de la guerre de 14-18 que ça a été la veuve suprême. Donc ah ben elle a l'air de dire que ça a donné un coup d'arrêt.
Brutal dans le sens où il y a quand même tellement de morts, tellement de jeunes qui sont morts. Bon, jusque dans les années 20, on parle d'Apache, après c'est fini.